Une femme peut être vue comme une sorcière sans que le mot soit prononcé.
Weakness, fear, and hopelessness die. Strength, power, and courage will come.
En fait, on envisage la possibilité de se faire insulter, de se faire frapper, de se faire humilier en public.
I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive.
Women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
Bonjour, bienvenue à Reine des Terres, le podcast qui met à l'honneur des personnes concernées par le sexisme. Aujourd'hui, on va parler de la transidentité, de la transphobie. Donc pour cela, je suis avec Morgane.
Bonjour.
Et Eva.
Salut.
Tout d'abord, Eva, pour commencer, peux-tu nous parler de ton expérience?
Alors, moi, je suis Eva, j'ai 21 ans. Moi, je ne fais pas partie des personnes qui, entre guillemets, ont toujours su. J'ai réalisé ça assez récemment.
Alors, moi, c'est Morgane. Je suis un mec trans non-binaire, pronom yel et il. J'ai réalisé que j'étais trans il y a maintenant 2 ans et demi. Je me suis d'abord identifiée comme non-binaire entre agent, gender fluid. Enfin, j'ai eu beaucoup de questionnements et ça fait 3-4 mois maintenant que je m'identifie définitivement, on va dire, en tant que mec trans. Et puis voilà.
Est-ce que du coup vous pourrez parler du fait que selon vous, la transphobie c'est partout, c'est systémique du coup. Et est-ce que selon vous, dans plein de champs, c'est transphobe?
Oui, bah déjà rien que l'assignation de genre à la naissance en fait. Quand on est potentiellement victime de transphobie à la naissance déjà. Parce qu'on nous assigne un genre, sans nous demander notre avis, selon des organes génitaux, et donc dans un rapport à la biologie essentialisant, genre arbitraire. Ce qui fait que de base, on est dans une certaine transphobie, et après ça se répercute même partout, dans le milieu médical, dans l'administration, dans la famille, chez les amis, enfin... Je crois qu'il n'y a pas un champ de la société, entre guillemets, où on n'est pas susceptible de vivre de la transphobie, dans le sens où beaucoup de gens ne la comprennent pas, beaucoup de gens la rejettent. Et puis le monde est fait pour les personnes cis, en fait. Rien que dans le langage, on est tous habitués, tous et toutes habitués au bonjour madame, bonjour monsieur. Sauf que quand ton expression de genre elle correspond pas à ton genre, ou que même quand t'es non-binaire c'est pire, t'es sans cesse mise face à ta différence, à ta transidentité en fait. Et ça c'est partout.
Ouais, pour moi c'est vraiment ça qui est pertinent, c'est vraiment de montrer que la société elle est vraiment structurée de manière cisnormée, et du coup en fait ça fait que... on est victime de transphobie dans chacune de nos interactions avec la société, en fait. Et du coup, ça, c'est partout. Et c'est pas que... même avec des personnes qu'on connaît, même avec notre famille, même avec... au bout d'un moment, c'est tellement ancré dans nos têtes qu'en fait, on a appris à genrer les gens en fonction de certains critères. Et du coup, même entre nous, même avec des gens qui nous connaissent, qui nous aiment et qui nous soutiennent dans nos transitions, etc., même ces personnes-là qui sont bienveillantes, ça leur arrive de se tromper parce que pour eux, c'est des automatismes, en fait, de genrer les gens en fonction de certaines caractéristiques. Là, je pense à ma voix, au hasard. par rapport à certaines caractéristiques physiques aussi, ou ce genre de choses.
Je reviens à ce que tu disais sur le médical. En fait, quand on... vagin, ça veut dire femme, pénis, ça veut dire homme. Et du coup, ceux qui ont théorisé la médecine, c'est des hommes cis, et souvent hétéros, souvent blancs. Et en gros, par exemple, le sexisme aussi est présent dans la médecine. Genre, on invisibilise, par exemple, l'endométriose depuis des années. Mais du coup, pour revenir aux questions trans, on fait des espèces de ponts, en fait, vraiment très rapides. Et il faut aussi savoir que le genre, c'est un spectre, et que, par exemple, on n'est pas concerné, mais les personnes intersexes...
Une personne intersexe, c'est tout simplement une personne dont les caractéristiques sexuelles, donc que ce soit les organes génitaux, que ce soit les hormones, que ce soit les caractères sexuels secondaires, les chromosomes, en fait, à partir du moment où c'est, on va dire, ambigu ou non conforme, en fait, à ce qu'on attend de la binarité de sexe, ceux qui ont pensé cette biologie-là, arbitrairement, ont décidé qu'il y avait telle caractéristique sexuelle masculine et telle caractéristique sexuelle féminine, et ce qui fait que toute personne qui n'entre pas dans cette case, dans l'une de ces cases bien précises, où c'est un peu ambigu, ou qu'il y a des différences ou quoi, peut être qualifiée d'intersexe. Et généralement, ces personnes-là vont être victimes, enfin, c'est même pas généralement, c'est la plupart du temps, vont être victimes de mutilations génitales, d'assignation de force à un genre qui n'est potentiellement pas leur. C'est pour ça que les luttes des personnes intersexes et les luttes de la communauté trans sont souvent liées. On peut faire beaucoup de ponts entre celles-là, parce que notamment les vécus, on va dire, en tant que par exemple de violences médicales ou d'assignation de genre violente, etc., sont souvent on peut faire des parallèles. C'est pas forcément les mêmes vécus, mais
c'est les identités de genre qui sont soumises à des thérapies de conversion. Donc ça existe pour les orientations sexuelles, mais ça existe aussi pour les identités de genre, où en fait on force les personnes en les frappant contre des murs, en les interdisant de manger, enfin en faisant des choses abominables, parce qu'on a décidé que non, ils pouvaient pas être à genre, ils pouvaient pas être trans, ils pouvaient pas être. D'ailleurs, le terme trans, c'est un parapluie qui recouvre en fait plein de genres. Donc oui, ça peut être des personnes qui sont transmasques, transfemmes, ça peut aussi être des personnes à genre, donc les non-binaires, ça peut être des genderfluides du coup. Oui. Donc en fait, il faut aussi prendre en compte que le fait d'être trans, ce n'est pas que être homme trans, être femme trans.
Le terme de trans n'est pas un genre en lui-même, c'est une façon de vivre ce genre en fait.
C'est qu'en fait, on peut très bien être trans, puis ensuite être non-binaire, enfin en fait, il n'y a pas de règles.
Oui.
Et... comment dire, les personnes qui, par exemple, sont non-binaires subissent vraiment de la unbiphobie. C'est qu'en fait, ils sont confrontés à une incompréhension qui est encore pire, parce que, comme tu disais, l'idée de ne pas rentrer dans le schéma soit homme, soit femme, c'est en fait pas possible, et oui, du coup, c'est des erreurs.
La non-binarité, c'est aussi un terme parapluie, en fait. C'est un terme parapluie dans le terme parapluie qui est trans.
Ouais.
Et les personnes non-binaires ne s'identifient pas forcément l'identité trans. Mais dans le terme parapluie non binaire, il y a plein de genres différents en fait. Il y a agenre, comme tu disais, gender fluid, gender flux, demi-boy, demi-girl, etc.
Et surtout que vraiment, quand tu parles de la mention administrative, derrière, ça sert en fait pour les statistiques peut-être, mais ça sert à rien en fait. On n'a pas besoin de. Parce que souvent aussi, l'argument derrière surtout les personnes agenre, les personnes intersexes, c'est c'est bon, c'est pas la majorité. Oui, mais même, ça sert à rien, vous êtes qui pour juger que c'est pas la majorité, les personnes peuvent être concernées.
Et puis c'est incroyablement méprisant de se dire, ça concerne qu'une minorité de personnes, alors ces gens-là, on s'en fiche,
en fait,
et du coup, on va pas exister, genre.
C'est ça.
C'est, ouais.
Exactement. Donc du coup, en fait, on revient beaucoup sur cette idée qu'il faut rentrer dans soit homme, soit femme, comme tu disais, dans des cases. Donc est-ce que vous pouvez vraiment affirmer que la société homme-femme, c'est totalement bullshit, en fait, et que tout ça, on en reparlera, mais que ça a été vraiment construit autour du fait que l'homme domine la femme, et qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'autres possibilités, et que du coup, quand on n'est pas homme, pas femme, c'est bizarre, ou alors quand en fait, on est femme, alors qu'on a été assigné homme, et tout, c'est bizarre, genre, pourquoi, en fait, est-ce que vous voulez en parler ?
Bah, en fait, tout ça, c'est... En fait, à un certain moment dans notre histoire, on a décidé qu'on allait répartir les tâches à faire, parce qu'il y avait un certain nombre de tâches à faire pour la survie de l'humanité, de la tribu, etc. Et on a décidé qu'on allait diviser ces tâches et les donner et assigner des rôles à des gens qui vont tenir les tâches en fonction de leur rôle. Et on a décidé aussi qu'on allait définir les rôles en fonction des caractéristiques sexuelles que les gens portaient à la naissance. Et du coup, en fait, on a décidé arbitrairement que telle personne, elle a telle caractéristique, elle tiendra tel rôle dans la société et elle fera telle tâche dans la société. On a le sentiment parfois que c'est universel, mais c'est pas vrai du tout. Mmh. Au final, c'est quelque chose d'assez européen centré, et une des raisons qui font qu'on a que c'est aussi répandu et donc qu'on a l'impression que c'est aussi universel, c'est parce que à l'époque de la colonisation, les sociétés qui vivaient différemment, qui vivaient avec plus que deux genres, ou alors avec des ou alors qui vivaient qui caractérisaient le genre différemment, ça a été complètement effacé. Et on a présenté ça comme quelque chose de nul, comme quelque chose d'arriéré, et on les a effacés et on a imposé le nouveau modèle
Oui.
qui est hérité de l'Occident, quoi.
En fait, on a tendance à penser que la biologie, la science, elle est antérieure en fait à nos constructions, que c'est parce que il y a telle caractéristique biologique qu'on a découvert chez l'être humain, que du coup, en réaction, on a construit nos normes de genre ainsi. Sauf qu'en fait, on a tendance à se dire que c'est plutôt l'inverse en fait. Justement, toutes les théories biologiques visant à expliquer pourquoi est-ce qu'on a divisé tel rôle dans la société, en fait, c'est postérieur. C'est-à-dire que la science, elle n'a pas servi à décider, mais elle a servi à justifier en fait telle prise de position et tel choix dans la répartition des tâches, comme tu disais, dans les assignations de genre.
Oui.
Et c'est particulièrement pertinent. En fait, aujourd'hui, depuis une 10-15aine d'années, on s'aperçoit en anthropologie, en préhistoire et quand on étudie l'Antiquité, on a projeté sur le passé notre construction sociale actuelle. C'est-à-dire que, par exemple, on a retrouvé des tombes de gens qui étaient enterrés avec des armes, avec des corps de chasse, ce genre de choses. Et comme dans notre tête à nous, à cette époque-là, les gens qui chassaient, c'était des hommes, on s'est dit sans plus se poser de questions que la personne qui était enterrée là était un homme. Or, depuis une 10-15aine d'années, on tend à refaire des analyses et en fait qui montrent que, eh ben, par exemple, dans cette tombe, le squelette ne correspond pas aux caractéristiques physiques d'un, entre guillemets, squelette d'homme, mais bien celui d'un squelette, entre guillemets, de femme.
Oui, je vois. Bah vraiment, c'est ça, c'est que le genre, en fait, c'est fluctuant, c'est culturel, et en fait, en fonction de notre sociabilisation, notre histoire, notre rapport au genre, c'est personnel. Et par exemple, il y a beaucoup de pays hors Occident, du coup, qui ont des cultures, notamment sur le genre, bah, très différentes hein, de la notion de binarité. Notamment, par exemple, à Tahiti, les Maou, qui du coup veut dire vraiment au milieu. Il y a eu des mentions dans les textes occidentaux en 1789 de récits de marins français qui en fait étaient des personnes qui étaient ni hommes ni femmes qui vraiment du coup étaient représentatives bah, de la genre en fait et que vraiment il y a plein plein de cultures qui du coup n'ont pas du tout de binarité entre hommes et femmes. Et il faut aussi savoir que en fait en Occident on a tendance à penser que le symbole des transmissions écrites c'est très important qu'il faut vraiment avoir quelque chose d'écrit, de vraiment de dit, de précis d'une personne selon nous importante, mais dans pas mal de pays d'Afrique notamment, il y a beaucoup de transmissions orales et c'est totalement respectable aussi, notamment sur le fait que l'inscription du symbole est transmise par l'oralité, par l'histoire, en fait, elle est transmise comme ça, et c'est pas moins légitime que
Oui.
des écrits, en fait. Personne ne peut échapper en fait à son contexte culturel, à la socialisation et à l'éducation qu'on a reçue, et du coup, c'est important de s'ouvrir en fait sur d'autres champs de culture, quoi. Toute personne qui est perçue comme une erreur en fait dans la matrice tout de suite en fait elle est totalement bah, rejetée. Il y a notamment des études sur le travail qui a été réalisé par The Independent en 2018. 47% des patrons ou des patronnes hésitent à embaucher des personnes vis-à-vis du fait qu'elles sont trans, notamment parce que ça on va en reparler mais l'expression de genre c'est très en fait important entre guillemets pour les personnes cis et qu'en fait on pense que le physique c'est un indice. On pense que si du coup une personne a une jupe, ah bah c'est bon, c'est une fille. Mais non, en fait, chacun fait ce qu'il veut et le fait d'avoir une jupe et d'être une fille, c'est totalement construit, en fait. Ça, c'est totalement culturel et social, ça, on en reparlera aussi. Mais c'est du sexisme et c'est faux. La maladresse, le fait de ne pas être au courant de ces questions de trans, bah, en fait, c'est compréhensif parce qu'on l'a dit, le système est binaire et construit. On ne peut pas échapper à sa socialisation, à sa culture. Et le monde est transphobe, le monde n'intègre pas d'autres genres, le monde n'intègre pas le fait que des personnes, en fait, transitionnent vers d'autres genres. Mais ça reste quand même violent et il faut vraiment faire attention. Et surtout qu'en fait, vous n'avez pas à juger des personnes qui du coup sont trans, vous n'avez pas à remettre en cause tout ça, vous n'êtes pas dans leur tête. Et du coup, enfin, juste accepter et c'est tout, quoi. Ne commencez pas à demander des questions aux personnes trans pour avoir une espèce de curiosité qui est très très malsaine parce que du coup, ça peut vraiment être violent pour les personnes trans de remplir, de répondre à vos questions. Elles ne vous doivent rien. Oui, c'est une charge mentale en fait pour les personnes trans de répondre à ces questions.
Ouais, carrément. Bah, moi, je sais que par exemple, à une époque, un moment où j'étais encore pas totalement fixé sur mon genre, où j'étais un peu encore en questionnement, j'utilisais le pronom « iel » et en fait j'ai vite arrêté parce que à chaque fois que je rencontrais des nouvelles personnes et que je leur expliquais mon pronom, j'avais droit à toute la ribambelle de questions, ah mais c'est quoi, machin. Du coup je répondais bah je suis c'est iel parce que moi je suis une personne non binaire, mais c'est quoi être non binaire et tout. Et en fait au bout d'un moment j'en ai juste eu marre qu'on me pose toutes ces questions et du coup j'ai arrêté et c'est triste à dire, hein, mais du coup je me suis conformé à un pronom binaire pour que ce soit juste plus vivable pour moi, en fait.
Ouais, ouais, bah en fait le truc c'est que on est plein de personnes du coup concernées par des discriminations et des oppressions qui sont, on est tout, enfin on est beaucoup à être prêts et prêtes à la discussion, à la pédagogie, genre on peut répondre à des questions et tout, mais ça dépend des moments. Genre il y a des moments où on va avoir envie, on va être open pour de la pédagogie, pour expliquer et tout. Mais il y a des moments où juste on a envie de vivre notre vie sans qu'on nous rappelle sans arrêt que ah bah oui on est trans, bah alors du coup telle question, genre et du coup faut aussi respecter ça je pense, et avant de poser plein de questions à une personne, genre déjà commencer par lui demander si elle est, enfin si cette personne est ok pour répondre à des questions ou si elle a juste envie qu'on lui foute la paix. Ça, je serais bien déjà que les gens se mettent ça en tête.
C'est quand ça. Vous commencez à interroger les personnes trans sur leur vécu, tout ça, soyez prêts et prêtes à ce qu'on vous réponde non. Soyez aussi, enfin, essayez aussi de réfléchir un minimum aux questions que vous posez. Je pense aux questions qui peuvent être extrêmement intrusives, qui concernent les dead names, les organes génitaux, tout ça, que ce sont des informations qui ne vous concernent pas. Enfin, concerne personne d'autre que la personne avec qui vous êtes en train de parler. Et puis aussi, au bout d'un moment, si vous avez des questions, si vous voulez vous renseigner sur des choses, vous n'êtes pas obligé de forcément discuter avec une personne physiquement. Vous pouvez aussi aller au hasard sur Internet. Voilà. Sur Instagram notamment, il y a plein de comptes qui font de la pédagogie et c'est très bien fait, et de la pédagogie qui est pensée pour les personnes cis.
Mais aussi, il ne faut vraiment pas se baser en fait sur ces représentations personnelles qui sont vraiment, bah, pour le coup, subjectives, et il ne faut pas négliger en fait l'identité de genre. Et du coup, il ne faut pas tout de suite mettre sa curiosité et son espèce d'incompréhension, parce qu'encore une fois, on l'a dit, le système, il est binaire. Donc forcément, si tu vois pour la première fois de ta vie une personne trans, tu vas être étonné, parce que du coup, malheureusement, ce n'est pas assez représenté, mais ce n'est pas une raison pour tout de suite... genre attaquer la personne vraiment, parce que c'est un peu ça peut être vu comme une attaque, vraiment de demander ah bon et du coup t'apprends entre les jambes, ah bon et du coup comment ça, quand est-ce que ça arrivait, enfin c'est vraiment intrusif et ça ne vous regarde pas, et vous croyez peut-être ouvert d'esprit mais pas du tout en fait, justement genre ça met dans une situation de bête de foire, de vraiment vous êtes la personne trans qui devait du coup répondre parce que vous êtes un petit peu l'étonnement,
la curiosité
ouais. Voilà, de la soirée, non, mais non.
C'est pas parce qu'on est la personne qui est pas conforme aux normes qu'on doit des explications. Hein. C'est même plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt vous qui n'êtes pas dérangé, qui n'êtes pas sensible à ce genre de problème, qui devez vous renseigner. En fait, c'est ouais, la responsabilité est même plutôt inverse. Et sinon, aussi, je parlais de ce que tu abordais au début de la question, c'est-à-dire que l'expression de genre est différente de l'identité de genre. Ça me faisait penser à une personne qui incarne ça très bien, c'est Bilal Hassani.
Ouais.
Bilal Hassani, c'est un homme, il le dit lui-même, c'est ce qu'on appelle un femboy, c'est un homme qui s'habille de manière entre guillemets féminine, mais ça reste un homme. Donc il faut pas, si vous croisez une personne qui porte une jupe dans la rue, quelles que soient ses caractéristiques physiques, ne vous attendez pas à ce que ce soit une femme, et inversement, personne qui porte un pantalon et un Marcel, c'est pas forcément un homme, quoi.
Le mieux, c'est d'arrêter le moins possible de genrer quand on connaît pas les gens. Ouais. Genre, déjà, bannir le bonjour madame, bonjour monsieur, juste un bonjour, ça suffit.
Ouais, grave.
C'est ça. Genre... Oui, puis surtout que les personnes font ce qu'elles veulent. Et du coup, même en fait, quand on réfléchit 2 secondes, qu'est-ce qui fait qu'on est femme? Qu'est-ce qui fait qu'on est homme? Vraiment.
Grande question.
Voilà, non mais genre, enfin, du coup, on peut pas dire, ouais, c'est parce que j'ai un vagin. Bah non, on a dit du coup que tout ça, c'était un spectre, qu'il y avait des personnes intersexes. Ah bah non, mais parce que je porte des jupes, j'ai les cheveux longs. Bah non, du coup, on a dit que tout ça, c'était bullshit.
Ouais, et du coup, les Écossais qui portent des jupes.
Voilà, enfin, vraiment, posez-vous 2 secondes et posez-vous la question. Et vous, du coup, vous pourrez réaliser que vraiment, la notion de genre, étant déjà, elle est totalement indépendante indépendant de la notion de sexe, en fait, de ce qu'on a entre les jambes, du coup, et que vraiment, il y a rien, en fait, qui justifie qu'on est femme et qu'on est homme, et du coup, à quel moment on ose, du coup, dire « Ah bah non, mais du coup, ça peut pas être un homme, hein, parce qu'il a une jupe. » Bah non, en fait, ça n'a aucun sens, et en plus, on peut peut-être penser que le fait de qu'on dise que c'est violent et tout, c'est peut-être un peu trop, mais vraiment, il y a des rapports, encore une fois, au Canada, qui ont été faits, de la commission de la santé mentale, une personne sur trois en 2014 s'est suicidée, notamment, en fait, cette personne était trans, et qu'on ait mal genré cette personne, parce que, du coup, il faut aussi respecter le pronom des personnes, que ce soit avec elle ou sans elle, hein, d'ailleurs, hein, parce que du coup, faut juste accepter que cette personne, son pronom c'est elle, c'est AL, c'est il avec deux L, c'est ul, c'est ol, et vraiment, faut pas rigoler, en fait, c'est important de respecter ça, parce que ça, c'est important que les personnes se sentent à l'aise avec leur identité de genre, et encore une fois, on est personne pour juger ce que elle préfère, et aussi, enfin, il faut vraiment demander, juste, la première fois que vous voyez quelqu'un, je te genre comment, et puis voilà, enfin, la personne ne va pas mal le prendre, en fait, elle va plus mal prendre, je pense, si on genre mal, plutôt que si on demande et qu'on fait vraiment attention, oui, quoi.
Même au contraire, hein, moi, ça me met plutôt en confiance quand je rencontre quelqu'un que cette personne aille me demander mes pronoms, quand ça arrive, je me dis, ok, je sais que, enfin, ben je sais, mais en tout cas, ça me met plutôt en confiance pour me dire, avec cette personne, je suis potentiellement en sécurité, quoi.
C'est ça. Puis aussi, il faut s'ouvrir, c'est que les personnes non binaires peuvent aussi préférer qu'on les appelle elle ou il, qu'on alterne entre elle et il, qu'on les appelle à elle, yel. Les personnes trans préfèrent aussi des fois qu'on les appelle yel. Enfin, il faut juste demander et après intérioriser et c'est bon, voilà.
Please, faut arrêter avec cet argument de non, mais c'est compliqué et tout. On se débrouille très bien pour apprendre des millions de prénoms différents. D'accord. c'est pas plus compliqué de retenir un pronom que de retenir un prénom, donc arrêtez avec cette argumentation.
Est-ce que le fait de dire transsexuel, c'est à bannir ?
Oui.
Mais pourquoi donc ?
Alors, transsexuel, pourquoi c'est à bannir ? Alors, déjà, avant de répondre à cette question, je voulais juste dire une chose, c'est que parfois, il y a des personnes concernées qui utilisent ce mot de manière consciente, et là, si vous êtes une personne cis, n'allez pas leur faire la leçon. Je pense par exemple à Buck Angel, qui utilise le mot transsexuel de manière totalement raisonnée, et si vous êtes une personne cis, n'allez pas lui faire la leçon, parce que, en fait, il sait beaucoup mieux que vous ce qu'il fait.
C'est une réappropriation.
Voilà. La deuxième... Donc, maintenant, pourquoi transsexuel, c'est un mot qui heurte d'autres personnes ? Parce que c'est un mot qui a une histoire qui a été utilisée par les médecins à l'époque où on pathologisait la transidentité, et en fait, qui renvoie à cette période où la transidentité était une maladie, et où on voyait ça vraiment par l'angle de la biologie et du sexe, comme c'est comme le porte-salut, c'est marqué dessus. c'est dans le mot, quoi.
Ouais, non, mais clairement, encore une fois, genre tout ça, c'est indépendant, le sexe, le genre. Et on a aussi tendance, certaines personnes cis, même moi d'ailleurs, je l'ai sûrement déjà fait, de penser que les personnes trans, en fait, sont trop agressifs et tout, et que du coup, limite, c'est on inverse un peu la tendance en mode « Ah, mais du coup, vous êtes méchant avec nous, du coup, c'est vous, en fait, là, les qui discriminez et tout. »
Ouais, d'accord,
mais, voilà, c'est ça. Mais surtout que, en fait, encore une fois, genre, tout ça, c'est un système qui privilégie, enfin, moi, en tant que personne cis qui est femme, je suis privilégiée. On va jamais, en fait, me dire « Ah, mais t'as quoi entre les jambes ?» On va jamais, en fait, me dire « Ah, mais du coup, pourquoi elle ?» Enfin, on va jamais me demander mon pronom, on va me dire « Ah, mais non, mais du coup, tu portes une jupe, mais pourtant, on dirait pas vraiment que t'es une femme. » Enfin, pas du tout. Et du coup, c'est parce que je suis une personne cis. Et du coup, je suis, en fait, surtout qu'encore une fois, jamais pour le travail, on va me discriminer. Jamais dans la médecine, on va me discriminer parce que, selon, en fait, le système, j'ai un vagin, je suis une femme. Donc, du coup, j'ai jamais subi de dysphorie de genre. Mais bon, du coup, voilà, il faut vraiment prendre en compte que le système est cis, du coup, ça n'existe pas tout ça. Qu'en fait, il faut vraiment, ça encore une fois, on en reparlera notamment quand je ferai l'épisode sur le sexisme et les hommes. On peut pas, en fait, parler d'inverse, de cisphobie, de je ne sais quoi, parce que, les personnes qui subissent majoritairement dans plein de pans, notamment dans le travail, dans la médecine, dans l'école, dans plein d'institutions, de la transphobie, ce n'est pas vous, et vous n'avez pas, en fait, à pleurer, parce que les personnes sont violentes, encore une fois, le système est construit, c'est compliqué des fois de comprendre tout ça, mais une fois qu'on l'a compris, il faut passer à autre chose, et il ne faut pas non plus commencer à réagir de cette manière-là, à se défendre de cette manière-là, face à des personnes qui ont subi sûrement des violences bien pires que ce que vous avez subi.
Quand des personnes cis, du coup, sont confrontées parfois à la colère de personnes trans, Et qui vont se dire, oh là là, bah, comme tu disais, cette personne elle est vachement agressive, non mais de toute façon, si vous voulez me convaincre ou je sais pas quoi, si vous voulez que je comprenne, faut pas m'agresser, nanana. Enfin, genre, j'aimerais que ces personnes se posent deux secondes et se disent, mais si ces personnes vivaient un quart de la violence que vivent les personnes trans, elles se rendraient compte que la colère, souvent, elle est légitime et que, enfin, c'est pareil dans le féminisme, dans l'antiracisme, enfin. Je veux dire, la colère, parfois c'est un moteur, ça nous aide en fait à ne plus subir autant ce qu'on vit en fait. Et oui, bien souvent la colère elle est légitime et il n'y a pas à nous faire du tone policing parce que c'est ça, c'est les gens vont considérer que notre parole elle n'est pas légitime, qu'on n'a pas à tenir de tels discours en raison du ton qu'on va prendre qui serait jugé trop agressif. Trop énervé, mais ça ne rend pas le discours moins légitime. C'est plutôt un indicateur de notre souffrance, en fait, je pense.
Oui, c'est ça. C'est surtout qu'en fait, à force de vouloir vous faire taire, à force de, du coup, totalement vous invisibiliser, à force de vraiment, comme vous avez dit, vous subissez des violences très intrusives et tout, bah, ça va vous mettre en colère, c'est logique. Et du coup, bah, forcément que derrière, ça va vous énerver parce qu'il y a tellement de fois, en fait, où on vous a vraiment violenté, on vous a tellement mis comme ça, un peu en bête de foire et tout, que ça a été dur pour vous, que forcément, bah, ça va ressortir, quoi. Et c'est légitime, comme tu expliquais.
Après, sur le système, si vous êtes une personne qui pense que les personnes trans font de la discrimination envers les cis, demandez-vous dans quel pays vous n'avez pas le droit de vous rendre parce que vous êtes cis. Rappelez-vous que personne dans l'histoire n'a jamais fait de théorie scientifique, etc., pour essayer de montrer que en tant que personne cis, vous valez moins qu'une personne trans. Voilà, ça c'est bel et bien symptomatique. Demandez-vous dans quel pays il y a des lois qui vous restreignent de faire des choses, d'être quelqu'un parce que vous êtes cis. Tout ça, ça n'existe pas.
Alors, dans les médias, dans pas mal de communautés aussi, même les communautés militantes, vraiment, la transphobie est malheureusement aussi présente. Beaucoup de féministes et certaines personnes militantes, notamment sur l'antiracisme, connaissent les TERF. Donc, ça veut dire trans exclusif radical féministe. Donc, c'est une communauté de féministes qui, du coup, suivent une idéologie datant de 1979, qui, du coup, s'appelle The Transsexual Empire, de Janine Waymont. En gros, qui théorise le fait que les personnes trans, notamment les personnes femmes trans, du coup, s'infiltrent, en fait, dans les communautés féministes. Et, du coup, ils sont des hommes déguisés en femmes. Et les femmes, du coup, qui sont déguisées en hommes selon les TERF, espionnent, du coup, les féministes, espionnent les femmes. Et, du coup, elles ne sont pas légitimes dans la lutte féministe. Et du coup, vraiment, ces personnes qui, du coup, encore une fois, aujourd'hui, existent. Hein. Et cette idéologie, en fait, elle date de 1979, à une époque où il y avait une méfiance par rapport à la guerre froide. Et donc, ça vient, en fait, de là, cette idée de méfiance vis-à-vis des personnes trans, du coup. Mais bon, ça reste quand même totalement bullshit, tout ça. Surtout que, vraiment, la communauté TERF est très, très présente aujourd'hui. Et vraiment, se revendique même féministe, qui, du coup, est une vision très biologique et essentialiste du fait d'être une femme, qui dit que vraiment être une femme égale vagin. Et qui, du coup, dit que les personnes trans, rien à voir, du coup, avec le féminisme et tout. C'est des personnes qui s'infiltrent, machin. C'est pas des vraies femmes. Enfin, vraiment, c'est très violent et malheureusement, c'est très courant, notamment notre chère J.K. Rowling, qui est une auteure milliardaire, mais qui pourtant participe activement en Angleterre à des communautés qui sont TERF, du coup. Et donc, du coup, c'est très très grave, parce que ça nuit vraiment à la représentation des personnes trans, et ça nuit à la représentation du féminisme, parce que on considère que le féminisme, c'est comme ça et pas autrement, et que quelques personnes sont légitimes à être féministes, d'autres non. Et vraiment, c'est absolument abominable tout ça.
Ces personnes-là, en fait, non seulement elles vont avoir des prises de position TERF et transphobes, mais en plus, quand les personnes trans, du coup, vont répliquer, vont dire, par exemple, TERF hors de nos luttes, ou qui vont critiquer donc ces personnes-là, tout de suite, ça va être des accusations du lobby trans, du transactivisme. Alors ça, c'est un terme, si vous croisez le terme transactivisme, c'est un terme qui vient des TERF et qui est utilisé pour décrire, enfin, pour accuser en fait les personnes trans de faire une espèce d'activisme anti-féministe qui veulent tirer la couverture à soi, entre guillemets, et au détriment des femmes biologiques, donc dans leur tête. Et donc ça, c'est important de comprendre que enfin, il y a beaucoup de féministes, donc TERF, qui se sentent vraiment dépossédées, en fait, de leur féminisme, en fait, par les personnes trans, et qui vont nous accuser de faire du lobbying, du transactivisme, et se sent comprendre, en fait, que l'oppression, elle vient pas de nous, elle vient d'elles.
Voilà. Exactement. Dans le féminisme, toute personne concernée par le sexisme, toute personne sexisée a sa place. Et vraiment, c'est ridicule en fait de limiter en fait les personnes à des standards en fait acceptables dans le féminisme, et des standards acceptables du coup par la cisnormativité. C'est vraiment ridicule, et surtout que ça revient encore une fois à une idéologie qui est très archaïque, parce qu'elle date d'une époque où il y avait une méfiance en fait dans le pays, dans le monde en fait, mais c'est plutôt actuel, et c'est vraiment ridicule, comme tu disais, ces personnes comme Dora Muto qui se revendiquent féministes et tout, ça nuit vraiment à la cause féministe, et ça nuit aussi aux personnes trans, notamment parce qu'elles décrédibilisent totalement les luttes trans. Oui.
Et il faut aussi un truc, enfin je pense qu'il est important à dire, c'est que c'est pas des féministes vieillissantes qui ont cette idéologie là, pas du tout. Pour vous donner une idée, une des TERF les plus violentes en France s'appelle Marguerite Stern, c'est la fondatrice de Collège Féministe.
Mm-hmm.
Voilà, donc le Collège Féministe c'est quand même pas très vieux.
C'est ça.
Oui, oui.
C'est ça, faut faire très attention en fait, notamment au terme femelle, notamment en fait que par exemple on inclut, on dise beaucoup les femmes, que on parle beaucoup des règles. C'est vraiment, enfin voilà, je dis pas qu'il faut tous méfier, mais il faut faire attention quand même. Des fois, il y a vraiment des TERF entre guillemets qui sont derrière tout ça, et vraiment il y a une sorte de montée du TERFisme depuis quelques années.
Le féminisme TERF aussi est très lié au féminisme institutionnel en fait. Donc c'est celui qui est le plus visible en fait.
C'est
malheureusement.
Ça. Malheureusement. Et puis surtout que oui, c'est une vision qui malheureusement marche en fait, parce que c'est très superficiel dans les idées féministes. Mais donc du coup de dire que les femmes en fait du coup celles qui ont un vagin, enfin c'est ridicule, parce que on l'a dit que c'était pas vrai tout ça, on a dit que c'était bullshit. Donc en fait on peut pas définir les termes définissent le féminisme comme le fait que les vraies femmes du coup celles qui ont un vagin, mais du coup ça ne tient à rien de dire ça. On en parle de représentation dans les films, dans les séries. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la représentation des personnes trans ?
Alors déjà, il y a un facteur, je pense, qui est assez pertinent. Dans les films, dans le cinéma, il y a plus d'hommes cis qui sont tombés enceints que d'hommes trans. C'est un ressort comique de dire « Oh là là, que se passerait-il si les hommes tombaient enceintes ? Ah ah ah, qu'est-ce qu'on se marre ?» Voilà. Et du coup, c'est hyper stigmatisant en plus.
Ouais.
En gros, il y a deux gros tropes dans les représentations, dans les œuvres de fiction notamment. Il y a deux gros tropes. Il y a ce ressort humoristique-là de les hommes qui tombent enceintes, voilà tout ça. Et l'autre chose, c'est il y a aussi le record comique de travesti un peu ridicule, tout ça. Je pense qu'on a tous, des exemples en tête.
Moi j'ai l'exemple par exemple de la femme en fait qui est ultra bonne et tout, puis dès qu'elle parle elle a une voix ultra grave, et waouh, c'est trop drôle parce qu'en fait c'est une personne trans.
Le trap, le piège, on a vu ça notamment dans Hangover.
Very Bad Trip.
C'est ça, où genre le mec il couchait avec une meuf, c'était trop bien et tout, et surprise, elle a un pénis, puis le mec vomit dans le film.
Oui, c'est genre... ça. Le fait de vomir en fait dès que du coup tu découvres que t'es une personne trans, c'est un trope qui a été repris donc dans Very Bad Trip, mais dans plein d'autres films avant. Genre je vous conseille le documentaire Disclosure qui en parle beaucoup, mais du coup oui, c'est totalement abominable de faire ça, et c'est pas du tout drôle.
Alors ça peut peut-être être drôle,
c'est transphobe en fait,
je veux dire,
ça n'enlève rien à sa féminité, à la meuf, et puis bon s'il a couché avec elle a priori c'est que c'était bien, donc en quoi ça fait quelle différence en fait? C'est vraiment un ressort comique ultra récurrent, même l'idée du trap, des femmes trans hyper féminines qui vont piéger les hommes, hétéros, pouf, ils vont découvrir que oh mon dieu, en fait c'est un homme. Non, en fait, raté, c'est toujours une femme en fait.
Et puis surtout que ça reste aussi souvent les femmes en fait qui sont trans, du coup, qui piègent, comme tu dis, les hétéros. Ça va pas être les hommes trans qui vont piéger les femmes, ce serait quand même détestable aussi. Mais c'est quand même très ça ressort vachement sur le côté on va remettre en cause en fait la féminité de la personne, parce qu'on est dans une société qui est sexiste aussi, qui n'est pas que cisnormée.
Ça a un impact vraiment désastreux, parce que quand on réalise, quand on commence à réfléchir à transitionner, quand on est une femme trans ou une personne transféminine qui commence à réfléchir à transitionner, etc., et qu'on voit ce genre de représentation, après, le risque, c'est de se dire que, en fait, si on transitionne, on aura toujours ce genre de réaction en face, qu'on ne pourra plus jamais relationner avec personne parce que les gens sont toujours dégoûtés. Et même, ça peut aller jusqu'à éprouver un dégoût pour nous-mêmes, en fait. Après, il y a aussi un autre thème que je voudrais aborder dans le truc des représentations, c'est que parfois, il y a des meilleures représentations des personnes trans. Je pense notamment au film Danish Girl. Mm-hmm. Le problème, et d'ailleurs, c'est aussi un problème dans ce film-là spécifiquement, mais pas que spécifiquement. Hein. Dans la plupart des films, c'est comme ça. Le rôle des personnes trans est joué par des personnes cis. Et ça, en fait, c'est hyper problématique parce que l'industrie du cinéma utilise nos difficultés à exister, nos malheurs, pour faire de l'argent qui ne nous revient même pas.
Oui, parce que ça existe, hein, les personnes trans actrices, hein, genre il y en a plein. Et en général, en plus, elles sont extrêmement discriminées, notamment effectivement dans le milieu cinématographique. Et donc, elles vont avoir du mal à trouver des tafs, autre que ultra stigmatisant ou quoi. Et en plus, quand elles pourraient avoir un rôle qui leur correspond, de pouvoir jouer dans un film qui parle de transidentité intéressant, etc., ben on leur donne même pas ce rôle-là, en fait.
Bah, en gros, surtout dans les séries, enfin, en fait, en général, j'ai l'impression, mais je suis pas sûre, que dans les séries, les représentations, en fait, de personnes oppressées, discriminées, sont plus mises en avant, mais ça, c'est, je pense, dû au fait que ça touche un moins large public au cinéma. Mais par exemple, il y a la série Scam France, qui, du coup, fait jouer une personne trans, du coup, homme, et qui, du coup, en plus, ne fait pas passer, en fait, son arc narratif autour du fait que c'est une personne trans, parce que ça aussi, c'est très récurrent dans les films. L'arc narratif de la personne trans, c'est elle est trans, ou oui, elle est trans, tout de suite. Enfin, il n'y a pas de monsieur ou madame, ou de personne, du coup, tout le monde, qui, du coup, est trans, en fait. Ça, c'est pas possible, mais du coup, dans la série, la personne est très, très, très cis-passing. En fait, voilà, elle est totalement hormonée.
Oui, elle passe pour une personne cis parce qu'elle a les... elle a un passing, quoi. Oui, je vois.
C'est ça. Et en fait, ça aussi, c'est assez récurrent. C'est que parfois, donc, on fait jouer des personnes trans, du coup, dans les films. Mais du coup, en fait, elles ont un cis-passing absolument impeccable. Mmh. Et du coup, ça peut être très compliqué à regarder, très violent à regarder pour les personnes trans. Parce que surtout que le fait de cis-passer, ça demande du coup une opération, une transition qui peut être coûteuse et difficile et pas forcément accessible à tout le monde.
Voilà. En tout cas, ça peut donner cette impression. Ça peut donner l'impression que pour cis-passer... déjà ça fait une pression à s'y passer déjà dans le sens où on serait autorisé à exister que si on a un passing, et en plus ça crée aussi cette image que pour avoir un passing il faut voilà faire des opérations, etc. Ça va peut-être vous surprendre, mais les opérations pour les personnes trans, c'est pas remboursé du tout, ça coûte extrêmement cher, et du coup ça peut être assez violent. Par exemple, moi, je vais parler pour moi, du coup, pour les femmes trans, de voir... je vais parler d'un sujet très précis, par exemple, c'est les augmentations mammaires. Ça coûte extrêmement cher, et de voir toujours des femmes trans qui ont fait ça, ça crée une pression à faire ce genre d'opération, et ce qui peut être désespérant quand t'as pas les moyens, en fait.
On en a parlé de personnes trans mis en avant, mais les personnes qui sont non-binaires, gender fluide, vraiment jamais mis en avant, donc ça aussi, c'est un problème. Et surtout que, comme tu disais, l'opération, la transition, c'est pas remboursé, c'est coûteux, mais du coup, c'est un peu fascinant pour les personnes, du coup, cis, parce que, du coup, c'est tellement incroyable, tu vois, de changer de corps et tout, et du coup, il y a carrément des reportages, genre, tellement vrais et tout, qui parlent d'une personne trans, et du coup, c'est tellement stigmatisant, n'importe quoi, en fait, de mettre en avant la transition comme quelque chose d'absolument fascinant, absolument... genre c'est l'attraction, quoi. Enfin non, en fait c'est quelque chose de personnel, de laborieux à faire, et c'est pas un sujet de documentaire et tout, c'est quelque chose de très personnel et qui n'a pas à être mis en avant comme ça, et qui n'a pas à être objet de fascination pour les personnes cis qui du coup ne subiront jamais ça, mais oh bah tiens, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Enfin c'est très...
En plus, la fascination, c'est exactement le bon mot, parce que la fascination, c'est associer le dégoût et l'attirance. Et c'est exactement ça. Il y a aussi ce truc de la fétichisation du corps des femmes trans. Il y a une stat qui est assez pertinente à ce sujet, c'est le fait que la catégorie shemale dans les sites porno, c'est une des catégories les plus regardées par les personnes cis, pas par les personnes trans, évidemment.
Oui, non, mais c'est ça, il y a une sorte de fétichisation, d'espèce de fascination, en fait, pour tout ce qui n'est pas commun, entre guillemets, mais sauf que du coup, c'est super malsain, parce qu'en plus, les personnes, en fait, qui du coup regardent ce genre de documentaire, je sais pas, les pornos, mais genre, en fait, se croient vraiment ouvertes, curieuses et tout, parce que waouh, et tout, du coup, bah, moi, j'ai vu un documentaire là-dessus, du coup, je suis trop OP sur ces questions-là, mais non, pas forcément, en fait. Vous ne serez jamais OP en tant que personne cis, parce que vous n'êtes pas concernée. Et du coup, vous êtes forcément, et même moi-même, je suis forcément transphobe parce que je ne suis pas du tout concernée par ces questions-là. Et je peux, notamment par rapport au système qui est totalement construit, binaire et sexiste et transphobe, faire des erreurs en fait de transphobie envers les personnes qui sont concernées. Donc, c'est pas parce que je regarde un documentaire sur la transition que ça y est, je ne suis plus transphobe. Enfin, je suis qui en fait pour remettre en cause la socialisation qu'on m'a biberonnée depuis que je suis petite.
Et puis du coup, ça fait que par rapport à cette fascination, justement, les personnes vont confondre justement la fascination avec l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que des gens qui vont complètement désirer, genre être attirés par spécifiquement des meufs trans avec un pénis, parce que oh là là, c'est so exotique, et genre c'est une expérience à avoir dans sa vie, ces personnes-là vont être persuadées que du coup elles sont giga ouvertes d'esprit. Et que du coup elles peuvent pas être accusées de transphobie parce que si elles étaient transphobes, et ben elles n'auraient pas d'attirance pour ces personnes-là. Sauf que, enfin, faut se rendre compte en fait de la violence de. Parce que c'est de l'objectification en fait. C'est genre une personne trans, enfin, genre c'est pas qu'une personne trans, c'est pas que un organe génital, c'est pas. Enfin, c'est plein de choses. Et genre. Enfin, faut vraiment se méfier quoi. Des personnes qui vont être là, oh, moi j'adore les personnes trans, genre quoi. Enfin, voilà, faut être vigilant par rapport à ça.
Oui, bien sûr. Et puis encore une fois, les personnes trans sont des personnes comme tout le monde, en fait. Vous ne devez pas les considérer à part parce qu'elles sont trans. Vous ne devez pas, en fait, leur imposer le fait d'être différent parce que bah, elles le vivent déjà tous les jours.
Que ce qui est important à dire, en fait, c'est qu'on existe au-delà du fait d'être trans, et qu'avant d'être trans, ce qu'on est surtout, c'est des personnes.
C'est ça.
Voilà.
Je ne sais pas si vous connaissez le test de Vito-Russo, c'est un peu comme le test de Bechdel pour les connaisseurs, c'est dans les films, les séries, les médias. Il faut qu'il y ait un personnage queer identifié et outé, donc ça veut dire que du coup on dit ce pronom, qu'il n'y a pas de souci, que du coup cette personne n'est pas du tout en fait mise en avant par rapport au fait qu'elle soit trans, que cette personne soit définie par d'autres caractéristiques du coup que par son identité, que donc du coup elle soit définie par son histoire, par je sais pas son parcours de vie scolaire, son travail, j'en sais rien, mais pas par le fait qu'elle soit trans. Que du coup cette personne soit utile à l'intrigue, que ce soit pas le ressort comique. Et du coup ce test, donc qui s'appelle le test de Vito-Russo, bah, vous pouvez le faire dans les films et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes représentations des personnes trans. Voilà. Si vous partez en fait dans des pays, vous n'allez jamais vous demander, vous poser la question, est-ce que mon genre du coup va être accepté? Est-ce que vraiment vous n'allez jamais vous poser la question? Parce qu'en fait, quand on voit dans le monde, il y a tellement de pays transphobes, c'est absolument incroyable. En plus, malheureusement, c'est les pays les plus puissants. Par exemple, aux États-Unis, il y a une loi qui prévoit, c'était sous Donald Trump, mais je ne sais pas si elle a été retirée, ça prévoyait le renvoi pur et simple de toute personne trans de l'armée américaine. Donc c'est toutes les personnes trans, femmes aussi, de participer à une activité sportive. Donc ça s'appelle le military ban aux US du coup.
Ça a été supprimé par Joe Biden, ouais. Mais
Ok.
depuis, il y a eu plein, 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 plein de mesures ultra transphobes dans beaucoup des États, des États-Unis, du coup, notamment dans le
Ah
sport.
oui, l'état Yao du coup.
Ouais,
Entre
bah, alors, je
autres,
me souviens plus des États précis, mais donc interdiction aux femmes trans de concourir, etc. Soi-disant parce que à cause des hormones, ou je sais pas quoi, ou parce que à cause de leur condition physique, genre elles auraient comment dire, elles seraient avantagées par rapport aux femmes cis. Il y a aussi des lois qui, en ce moment-là, il y a des lois qui ont été promulguées qui s'appellent Don't Say Gay, qui interdit du coup de parler de sujets LGBT, de personnes LGBT à l'école. Il y a aussi une loi qui interdit aux bibliothécaires de vendre des bouquins qui parlent de LGBT, de lutte LGBT, de sujets LGBT. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça bien sympathiques, n'est-ce pas? Et
ouais.
non, les États-Unis, ils sont vraiment en train de reculer. En France, bah, du coup, on a quand même eu la loi qui interdit les thérapies de conversion. Donc il nous a fallu du temps, mais on a réussi. Par contre, bah, la loi pour la PMA. Les femmes trans sont exclues du coup,
Soi-disant pour toutes, soi-disant.
ouais, soi-disant pour toutes du coup. Mais par contre pour les mecs trans, je sais pas trop comment ça ça je sais pas.
Bah, j'imagine que s'il y a M sur ta carte d'identité, c'est mort.
Ouais.
Non mais déjà, il y a eu une espèce de flow sur l'émoji de l'homme enceinte.
Ah oui.
C'était incroyable,
l'homme
genre
enceinte,
l'homme enceinte, du coup, c'est ça. Vraiment, ça a fait scandale, mais c'est ridicule, quoi. Genre, c'est un émoji, vraiment. Donc j'imagine que pour la PMA et pour les hommes trans, c'est encore compliqué.
Bah, et surtout que factuellement, vous n'y pouvez rien. Les hommes, des hommes tombent enceintes, en fait. Ça existe, c'est là, c'est factuel. Donc pas la peine de vous faire des paniques morales sur oh là là, un émoji, oh là là, mais c'est la décadence. De toute façon, on est là, en fait, on existe. Donc soit vous nous foutez la paix, soit vous nous soutenez. Enfin, pas la peine de vous agiter comme des. Enfin, je veux dire, à un moment, ça sert à rien, en fait, de crier à l'horreur. Enfin, je veux dire, on est là, de toute façon. Donc, autant qu'on arrive à vivre ensemble. Enfin, je sais pas, mais je le propose.
Surtout qu'en fait, ça vous regarde pas. Genre, ce n'est pas vos questions. En tant que personne cis, vous ne vivez pas tout ça. Vous ne savez pas ce que c'est la transphobie, vraiment. Vous êtes transphobe. Ça peut peut-être un peu paraître violent et dur, ce qu'on dit, mais c'est vrai. Et vraiment, je peux vous conseiller du coup pas mal d'articles, de livres, de podcasts et tout pour vraiment vous remettre en cause un peu vos orientations, parce que vos orientations, vos principes peuvent être très arrêtés. On ne se rend pas forcément compte. Et moi, la première, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs et j'en fais encore sur les questions trans. Mais vraiment, c'est important parce que bah, il faut vraiment arrêter en fait avec cette binarité, avec ces notions de genre qui sont bah, très, très excluantes. C'est pas comme ça, comme disait Morgane, en fait, qu'on va avancer. Donc du coup, vraiment, je vous conseille le livre qui m'a beaucoup aidé pour le podcast. Ça s'appelle Une histoire de genre, qui a été écrit du coup par Lexi, une personne trans, qui du coup a un compte Instagram qui s'appelle Aggressively Trans, et qui du coup bah, déconstruit beaucoup de personnes en fait sur les questions trans. Et vraiment, ce livre, c'est une pépite. Il est très bien écrit, il est très complet, il est très très facile en fait d'accès. Bon, ok, il est peut-être un peu cher, mais honnêtement, il est vraiment très 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 bien, très complet. Vraiment, presque tout le podcast se base sur ce livre. J'ai appris énormément de choses.
Je suis Aggressively Trans depuis pas mal de temps maintenant, et son contenu, il est hyper clair, hyper pertinent, il pose plein de questions, il éduque très très bien, donc clairement, s'il y a un compte à suivre, je pense, moi je pense à celui-là en premier, quoi.
Ouais, clairement. Et puis, c'est pas, ça parle de transidentité, et ça parle pas que de transidentité, dans le sens où ça va parler d'autres choses, mais sous le prisme de la transidentité. Par exemple, Lexi, elle parle souvent de des problèmes de santé mentale qui sont liés à la transphobie. Elle parle aussi de neuroatypie sous le prisme de la transidentité. Voilà, donc c'est pas que ça non plus. Et oui, son contenu est hyper clair, hyper pédagogue. Et ça rejoint aussi ce qu'on parlait tout à l'heure. Elle fait pas mal de pédagogie autour de la colère trans.
Oui, c'est ça. Après aussi, il y a le podcast En toute transparence, qui est vraiment très très bien. C'est un petit format aussi, qui du coup en fait reprend des témoignages de personnes trans, et qui notamment l'épisode Le système, CISTEME, qui vraiment reprend toute cette idée de systémique, vraiment la société est binaire, qu'il y a vraiment d'autres cultures qui ont d'autres façons de voir le genre. Ça, c'est vraiment très très bien, et en plus c'est très court, très très facile d'accès aussi. Puis ensuite, il y a le documentaire, on a un peu parlé d'Disclosure, qui vraiment reprend en fait ces idées de représentation trans dans les films, dans les séries, à travers le siècle. C'est vraiment très 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 très, très bien. Bon bah voilà, écoutez, c'est la fin de cet épisode, voilà. N'hésitez pas à le repartager sur Instagram, et puis voilà.
Je vous dis à bientôt.
Salut, merci Louis.
Merci Louis.
Et le ciel nous salue parce qu'il y a un arc-en-ciel.
Oui, il y a un arc-en-ciel, c'est incroyable. Oh mon Dieu, incroyable. Le ciel est avec nous pour ce podcast ce soir.